Chapitre 5 Marie-Louise. Chantecoq réprima un cri de joie. À voix basse, lui aussi, il demanda au professeur « Espérez-vous, vous allez lui rendre la vie ?»«
Oh, j'en suis sûr, et cela le plus facilement du monde. Dans quelques minutes, cette jeune femme sera entièrement revenue à elle. »«
C'est merveilleux, » disait Chantecoq, qui pourtant n'avait pas l'habitude de s'extasier. Avec une grande maîtrise de lui-même, le professeur Courtil déclarait « Il ne faut pas que cette jeune femme, lorsqu'elle reviendra à elle, ouvre les yeux sur cet apparat funéraire. Il s'agit donc de la transporter dans une autre pièce, voisine de celle-ci. Veuillez, monsieur Chantecoq, avoir l'obligeance d'ouvrir cette porte et de me dire où elle donne. » Chantecoq s'exécuta aussitôt, et ouvrant le battant, il constata qu'il y avait là un petit boudoir, fort élégant, qui possédait un divan sur lequel il était très facile de transporter et d'étendre la fausse morte. Il fit part de sa découverte au savant, qui, sans hésiter un instant, prit la jeune femme dans ses bras et s'enfuit la coucher sur le divan, en ayant soin de lui tenir la tête très haute et les reins solidement appuyés sur les coussins. Ensuite, il prit sa trousse, donnant une seringue d'une forme singulière qui ne contenait aucun liquide, n'était pourvue d'aucune aiguille, et se terminait par une sorte de renflement métallique en forme de ventouse qu'il appliqua sur le poignet droit de Marie-Louise. Et lentement, toujours en silence, il poussa le piston. Quand celui-ci fut arrivé au bout de sa course, le savant enleva la seringue dont l'extrémité laissa sur la peau de Madame Barrois un léger cercle rouge. Se tournant vers Chantecoq, qui, muet et immobile, avait assisté à cette opération en apparence insignifiante, il expliqua « Oui, cette seringue renfermait un gaz de mon invention qui est en train de se répandre dans l'organisme de cette jeune femme et qui a une action directe et aussi efficace qu'inoffensive sur la circulation. Oh, j'ai mis 20 ans à le trouver !» « Alors, observait d'une voix sourde le roi des détectives, sans vous, cette malheureuse allait être enterrée vivante ?»« Eh oui, certainement. Mais c'est abominable !» Le professeur Courtil ne répondit pas. Il fixait de son regard ardent le visage de Marie-Louise, attendant les premiers symptômes d'un retour à la vie. Chantecoq poursuivait. « Mais une fois dans son cercueil, aurait-elle repris connaissance ?» Le savant eut un simple signe de tête affirmatif. « Mais quelle horreur !» ne put s'empêcher de s'exclamer le grand limier. Et il ajouta « Alors, toutes les victimes du tueur de femmes ont subi cet atroce supplice ?» Le professeur eut un geste qui signifiait « silence ». Chantecoq se tut et s'approcha. Le visage de Marie-Louise était déjà moins livide. Ainsi que l'avait prédit Courtif, la circulation du sang commençait à se rétablir. Le cœur s'était donc remis à battre. Les membres avaient déjà perdu leur rigidité cadavérique. Les narines avaient d'imperceptibles palpitations. Les lèvres, un très léger frémissement. Les doigts, les premiers, se détendirent. Rapidement, le professeur enleva le chapelet qui les entourait et le fit disparaître dans sa poche. Par intervalles, des soupirs soulevaient la poitrine de la jeune femme. Le prodige s'opérait graduellement, immuablement. Ce n'était pas une morte que le grand biologiste ressuscitait, mais une endormie qu'il arrachait à sa léthargie. Il se tourna vers Chantecoq, pétrifié d'admiration, et lui dit « Oh, maintenant, vous pouvez être absolument tranquille. Dans 10 minutes, Madame Jacques Barrois sera aussi bien importante qu'elle l'était avant l'accident. Vous pouvez prévenir la famille. » Chantecoq quitta la chambre, exultant de joie. Il trouva M. Barrois père, qui continuait à monter la garde dans le couloir.
« Monsieur, lui dit-il, promettez-moi d'être calme, très maître de vous. » Vivement surpris, M. Barrois interrogeait « Mais pourquoi me demandez-vous cela ?» Et le policier privé répliquait « Oh, parce que souvent les grandes joies sont aussi difficiles à supporter que les grandes douleurs. » « Monsieur Shortcock, je crois vous comprendre, mais... »« Oh, je vais préciser, » déclarait le détective. « Si je vous annonçais que votre fils et vous, ainsi que tous les vôtres, avez vécu non pas une horrible réalité, mais un affreux cauchemar, et que non seulement, madame, votre belle-fille, n'a commis aucune faute, mais qu'elle est vivante. Oh, « Monsieur Shortcock, » murmurait l'industriel d'une voix étouffée, « mais vous me donnez le vertige. Marie-Louise serait... » « Venez avec moi, » fit simplement le limier, qui entraîna aussitôt M. Barrois dans la chambre mortuaire. Constatant que le corps de sa belle-fille avait disparu, l'industriel s'écria « Mais où est-elle? Qu'en avez-vous fait ?» Chantecoq indiqua la porte du boudoir qui était restée ouverte. Le métallurgiste se précipita dans la pièce. Marie-Louise commençait à rouvrir les yeux. M. Barrois s'arrêta figé de stupeur. Chantecoq, tout en lui désignant le savant, qui, son chronomètre à la main, comptait les pulsations de la jeune femme, s'écria « Voici, monsieur le professeur Courtil, grâce auquel madame votre belle-fille va être rendue à l'affection des siens. »« Monsieur, » reprenait l'industriel en s'avançant vers le médecin, « je n'en peux croire ni mes yeux ni mes oreilles. » « Comment, cette pauvre enfant que tout à l'heure j'avais laissée étendue, rigide et glacée sur son lit funèbre, la voici maintenant revenue à l'existence, et presque à la réalité !» À peine M. Barrois avait-il prononcé ces mots, que Marie-Louise, entr'ouvrant ses lèvres, qui reprenaient peu à peu leur incarnat, murmura d'une voix faible, mais cependant distincte, « Jacques, Jacques !» Chantecoq suggérait. « Monsieur Barrois, allez prévenir votre fils. » L'industriel s'en fut aussitôt. Marie-Louise, qui recouvrait de plus en plus la notion de ce qui l'entourait, réclamait de nouveau son mari. Elle ne se souvenait pas encore des derniers événements. Seul l'instinct de son cœur inspirait sa pensée. « Jacques !» répétait-elle, « mais pourquoi n'es-tu pas là ?» Et tout en passant sa main sur son front, elle ajouta, « Mais mon Dieu, mais que s'est-il passé ?» Puis ses yeux s'enfuirent tour à tour vers le professeur et le détective qu'elle voyait pour la première fois. Pourtant, elle était bien chez elle, dans son boudoir. Alors, quels étaient ces gens inconnus ? « Mais qui êtes-vous » murmura-t-elle d'une voix lointaine. Et Chateaucoq récupéra fort adroitement. « Des médecins !»« Et mon mari ?» interrogea-t-elle avec crainte. « Il va venir, » répliquait le limier. Et un cri déchira la poitrine de la jeune femme. Elle venait de se souvenir tout à coup de la terrible méprise de la matinée. « Il est parti, n'est-ce pas ?» « Oui, il est parti et vous ne voulez pas me le dire. Et mon beau-père et Maurice, tous m'ont abandonné, car tous me croient coupable. »« Mais non !» affirmait avec force le roi des détectives. « Ils vous croient et vous savent innocente. »« Mais qui donc êtes-vous pour me parler ainsi ?» Chantecoq n'eut pas le temps de lui répondre. Marie-Louise lançait une voix éperdue. « Jacques, Jacques !» Le fils de l'industriel venait de pénétrer dans le boudoir et se précipitait vers sa femme qui lui ouvrait leurs grands ses bras. Discrètement, Chantecoq et le professeur Courtil, que Jacques en son émoi n'avait même pas remarqué, se retiraient dans la pièce voisine où les attendaient M. Barrois et son fils Maurice. M. Barrois attaqua le premier. « Alors, tout va bien ? » Admirablement, répliqua Shandcock. Non, mais jamais, s'écria le métallurgiste, nous pourrons nous acquitter à servir vous. Non, c'est surtout, monsieur le professeur Courtil, que vous devez remercier, déclarait modestement le roi le détective, en désignant le savant, qui semblait ne plus avoir qu'un désir, celui de disparaître afin d'échapper aux effusions qui le menaçaient. Shattercock le retint en disant « Ne puis cependant pas m'attribuer le succès auquel je n'ai qu'une faible part. Car si j'avais espéré que Madame Marie-Louise Barrois était encore vivante, il est certain que sans vous, mon cher maître, j'aurais été incapable de la ramener à la vie. » Écoute, il répliquait froidement « J'ai fait mon devoir, tout simplement. » Et après avoir salué d'un léger signe de tête Auguste et Maurice Barrois, il dit à Shandcock « Cher monsieur, je vais vous demander le service de me reconduire jusque chez moi, car pour rien au monde je voudrais faire attendre ceux qui ont besoin de moi et que j'ai dû remettre à plus tard pour venir ici. » Shandcock répondit « C'est entendu, je vais vous reconduire. » Et s'adressant à monsieur Barrois père, il ajouta « Si vous me le permettez, je reviendrai ensuite ici, car j'ai pas mal de choses à vous dire. » M. Barrois et son fils acquiescèrent immédiatement et tendirent leurs mains au policier privé qui les serra cordialement. Déjà, le professeur Courtil avait gagné le couloir. M. Barrois murmura à l'oreille de Shandcock « Quel est cet étrange médecin que vous avez amené ?»« Je vous expliquerai cela tout à l'heure, » répliquait le limier, qui s'empressa de rejoindre son compagnon et de réintégrer sa talbot. Shattercock dit au professeur, « Cela vous ennuierait pas de vous asseoir à côté de moi, car j'ai besoin de vous parler. »« Mais certainement, avec plaisir, » riposta le savant, qui s'installa aux côtés du détective. Celui-ci mit son moteur en marche, et tout en prenant la direction de la rue Bonaparte, Shattercock dit à son voisin, « Oui, je sais que vous n'aimez pas les compliments. Aussi ne vous en ferai-je point. Cependant, je ne puis pas m'empêcher de vous dire qu'au cours de ma carrière, déjà longue, jamais encore il ne m'était arrivé d'être mêlé à des événements aussi extraordinaires. Mais si vous aviez été compris ainsi, mon cher maître, mais que de service vous auriez pu rendre à l'humanité ! Mais peut-être un jour consentirez-vous à divulguer et à laisser propager votre découverte. Vous verrez, répondit laconiquement le professeur. Shattercock reprenait, et quand je pense à toutes ces malheureuses qui ont été ainsi plongées en léthargie par ce tueur de femmes, qui ont été enterrées, et que, ainsi que vous le disiez tout à l'heure, se sont réveillées dans leur tombeau, bien que je sois cuirassé contre toutes les émotions physiques et presque toutes les ressources secousses morales, je ne puis m'empêcher de frémir. Car en admettant que ces femmes ne fussent guère intéressantes, ne trouvez-vous pas que le châtiment que leur infligeait cet extraordinaire justicier est véritablement par trop disproportionné à la faute commise ? Mais n'ai pas d'opinion à ce sujet, répondait le savant. « Quel singulier bonhomme !» songeait le limier. On dit que le génie et la folie sont très près l'un de l'autre. Il est certain qu'en ce moment, j'ai l'impression de me trouver en présence d'un homme qui est doué de l'un et atteint de l'autre. Et il fit tout haut. « Sous des allures impassibles, mon cher maître, je suis certain que vous êtes doué d'un excellent cœur. »« Moi ?» Oui, vous, ne voulez-vous pas en donner la preuve en accourant aussi vite auprès de cette jeune femme. Je sais, par ailleurs, les bienfaits que vous répandez dans un monde où on ne connaît guère de bonheur. Aussi n'aurez-vous pas pitié de toutes ces pauvres égarées d'un moment, qui sont si férocement et impitoyablement frappées par un ennemi invisible. Vous seul pouvez arrêter la série de ces exploits. Et le professeur Courtil répliquait « Bon, j'y ai déjà songé à ma entreprise. Et si je ne l'ai pas fait plus tôt, C'est parce que j'ai pensé que mon intervention n'arrêterait pas le criminel, et que si je m'occupais de ramener ses victimes à la vie, il changerait sa formule et, au lieu de plonger ses femmes en léthargie, il les tuerait tout de suite. Mais cela serait déjà un résultat, observait Shantcock, puisqu'il empêcherait ces agonies effroyables au fond d'un cercueil.
Oui, c'est très juste, répliquait le savant.
Je n'avais pas songé à cela, car j'étais persuadé, comme tous, que ce mystérieux monomane tuait tout de suite. Mais, puisqu'il en est autrement, je consens, dans un but exclusivement humanitaire, à secourir la première de ces malheureuses qui succombera. Shantcock précisait. Alors vous m'autorisez à aller trouver le mari et à lui offrir votre concours.
Oui, admettait le professeur, mais à une condition.
C'est que cette démarche, ainsi que mon intervention, demeure strictement confidentielle. Je déteste la publicité et je vis dans l'obscurité à l'abri des médisances et des calomnies que je n'aurai pas la force de supporter. Je me suis fait une vie intérieure et extérieure extrêmement calme. Et comme le disaient les vieux Romains, je tiens essentiellement à vivre loin des agitations du forum, ou si l'on veut, de la place publique. Shantcock répliquait.
Votre volonté sera respectée, j'en prends l'engagement absolu.
Il ne me reste plus, mon cher maître, qu'à prendre congé de vous, et à vous remercier d'avoir bien voulu intervenir, quand il était encore temps, auprès de cette jeune femme qui est véritablement digne de votre compassion. Avec une expression singulière, le professeur Courtil reprenait. Monsieur Shantcock, vous n'allez pas vous froisser de ce que je vais vous dire.
Oh, j'ai l'excellent caractère.
Eh bien, vous m'apparaissez comme un homme de plus en plus stupéfiant.
Comment cela?
Mais je vais vous le dire. Vous avez au moins 25 années de service dans la police officielle ou privée.
Mais exactement 27, déclarait le roi des détectives.
Et vous avez gardé une pareille générosité.
Pourquoi pas?
C'est bizarre.
Mais beaucoup de mes collègues, croyez-moi, mon cher maître, je dirais même la plupart, sont de très braves gens qui savent, quand il le faut, avoir pitié de ceux qui le méritent.
Monsieur Courtil poursuivait. J'aurais cru au contraire qu'en coudoyant les malfaiteurs, on finissait non pas par devenir silencieux malfaiteur soi-même, mais tout au moins par perdre presque entièrement, même totalement, toute sensibilité.
« Oh, mon cher maître !» s'écriait Shantcock. « Vous commettiez là, permettez-moi de vous le dire, non seulement une erreur, mais encore une injustice. »«
Oui, je m'en aperçois. Nous ne fréquentons pas que des fripouilles. Nous avons aussi affaire à beaucoup d'honnêtes gens, et nous nous percevons qu'ils sont en immense majorité. » Malheureusement, n'ayant pas le même manque de scrupules que celui qui caractérise les bandits acharnés après eux, ils ne savent généralement pas se défendre contre leurs attaques, pas plus qu'un troupeau de moutons ne sait se préserver des attaques d'un loup. Et c'est précisément cette sorte d'ingénuité qui caractérise les bons et cause leur infériorité en face des mauvais. Cela nous rend, nous autres détectives, privés ou non, accessible à ces sentiments d'humanité que vous étiez tant surpris de rencontrer chez moi. » Et le professeur Courtil s'écriait.
« Ah, maintenant, monsieur Shantcock, je vous comprends tout à fait, et je me félicite d'avoir provoqué vos explications. Je vous avouerai que j'éprouvais, comme certaines gens qui ne sont pas au courant, une sorte d'instinctive antipathie pour tout ce qui est police. » Et je reconnais que vous l'avez, en quelques instants, transformé en une sympathie profonde et sincère, qui ne demande qu'à s'étendre sur tous ceux qui se sont constitués les gardiens de l'ordre social.
Sur cette bonne parole, déclarait le grand limier, je vais vous demander la permission de prendre congé de vous, car j'ai plusieurs courses à faire qui ne sauraient admettre aucun délai. Et excusez-moi de vous avoir aussi longtemps retenu. Cette conversation était indispensable. Maintenant, nous allons pouvoir marcher la main dans la main. Car je n'ai pas oublié votre promesse. Peut-être, grâce à vous, vais-je pouvoir atteindre le but que je me suis assigné, c'est-à-dire déjouer les manœuvres du tueur de femmes, et peut-être aussi le démasquer. Monsieur Courtil eut un signe de tête affirmatif. Puis se levant, il tendit la main à Chantecoq qui la serra avec effusion. Le professeur Courtil, après avoir regardé le détective s'éloigner, se prit à murmurer. Décidément, cet homme est des plus intelligents, des plus honnêtes que j'ai rencontrés. Mais je doute bien qu'il mette jamais la main sur le tueur de femmes. Chapitre 6. Où l'on voit Chantecoq procéder à une enquête des plus serrées et aboutir à un résultat auquel il ne s'attendait guère. En quittant le professeur Courtil, Chantecoq était retourné directement chez M. et Mme Jacques Barrois, où il avait été accueilli avec enthousiasme par le jeune ménage qui lui devait la résurrection complète de son bonheur, ainsi que par M. Auguste et Maurice Barrois, qui ne savaient comment lui témoigner leur gratitude. Tout de suite, Chantecoq posait. « Vous croyez que je suis très heureux du résultat. Cependant, je ne suis pas venu ici pour triompher ni pour recevoir vos félicitations, si précieuses me soient-elles, mais surtout et avant tout pour travailler. » M. Barrois père déclarait. « Oh, soyez persuadé, M. Chantecoq, que nous mettrons tout en œuvre pour faciliter la tâche que vous vous êtes assignée, c'est-à-dire l'arrestation du tueur de femmes. » Et Jacques Barrois appuyait, approuvé par sa jeune femme, « C'est notre meilleur moyen de vous exprimer notre reconnaissance. » Le roi des détectives reprenait. « Vous m'autorisez donc à poser à Madame Barrois certaines questions. »« Oh, très volontiers, » affirmait Jacques. « Et moi, » déclarait Marie-Louise, « je considère qu'il est de mon devoir, Monsieur Chantecoq, de vous répondre de mon mieux. »« Alors, tout va bien, » s'écria le grand limier d'un air joyeux. « Je puis commencer mon enquête. » Tout de suite, formula la jeune femme. Chantecoq précisait. Sans vouloir revenir sur des événements dont le souvenir ne peut que vous être pénible, je serais très heureux, madame, si vous pouviez me retracer exactement l'itinéraire que vous avez suivi lorsque vous avez quitté ce matin votre maison. Je vais tâcher de m'en souvenir, ripostait Marie-Louise. Je vous avouerai que j'étais tellement troublé à ce moment. Il se peut donc qu'il y ait quelques trous dans ma mémoire. Bien, la vérité, qu'en quittant si brusquement ma demeure, je n'avais qu'un désir, retrouver mon mari et tout lui dire. Malheureusement, j'étais si bouleversé que je n'ai pas songé un seul instant à me rendre aux endroits où j'avais le plus de chance de le trouver, c'est-à-dire chez son père ou chez son frère. J'ai pris un taxi et je me suis fait conduire à son bureau qui se trouve rue de Castiglione. Là, on m'a répondu qu'il n'était pas encore arrivé. Malgré cela, je suis rentré dans mon cabinet de travail qui était vide. Un courrier assez volumineux l'attendait, prouvant que l'on m'avait exactement renseigné. J'ai attendu pendant quelques instants, toujours personne, et lorsque le garçon de bureau est venu m'annoncer d'un air embarrassé que M. Jacques était malade chez son frère et qu'il ne viendrait pas ce matin, je suis descendu complètement affolé. Alors j'ai pris la rue de Rivoli, marchant d'un pas nerveux sous les arcades, lorsque, à un moment donné, je me suis senti bousculé légèrement par un vieux monsieur à barbe blanche qui s'est excusé et éloigné sans que je prêtasse la moindre attention à cet incident. J'ai fait quelques pas et je me préparais à arrêter une voiture pour me rendre chez mon beau-frère lorsque j'ai senti le sol se dérober sous mes pas et je me suis écroulé comme une masse. « Voilà tout ce que je puis vous dire, Monsieur Chantecoq. » Le détective répliquait. Je vous remercie, madame, de la bonne grâce avec laquelle vous m'avez répondu. Pour aujourd'hui, je ne vous en demanderai pas davantage, et je m'en vais vous laisser savourer en paix votre existence de bonheur enfin reconquise. » Il se leva, embrassa avec déférence la main que lui tendait Marie-Louise, serra celle des trois hommes et se retira, l'air satisfait, bien qu'à première vue, il ne recueillit que de très vagues renseignements qui ne semblaient guère de nature à le mettre sur la piste du malfaiteur qui s'était donné la tâche de découvrir. Il rentra chez lui à l'heure du dîner. Chantecloc avait un principe, lorsqu'il était à table, sauf de très rares exceptions, jamais il ne parlait des affaires qu'il avait en cours. Météor, qui partageait son repas, le connaissait trop bien pour se permettre de lui poser la moindre question. Mais il ne fut pas sans constater que son patron, ainsi qu'il l'appelait, était d'excellente humeur et faisait honneur avec un appétit de 25 ans au menu succulent que lui avait préparé sa cuisinière, Marie-Jeanne, cordon bleu émérite et épouse légitime de Pierre Gautret. À la fin du dîner, Chantecoq, tout en allumant sa pipe, dit à Météor, « Eh, maintenant, mon petit, passons dans mon studio. Nous avons à travailler. » Tous deux s'enfuirent dans la pièce que nous avons décrite plus haut. Chanteclair s'installa et demanda aussitôt à son secrétaire, « Est-ce que tu as terminé la mise au point de la sténographie ?»«
Oui, patron, elle est là devant vous, dans cette chemise bleue. »«
Parfait !» Chantecoq se plongea dans la lecture de ce document. Puis Météor, qui avait allumé un cigare, observa un silence religieux. Lorsque Chantecoq eut terminé, sa pipe était éteinte. Il la bourra avec soin, l'alluma avec précaution, et après avoir tiré quelques bouffées qui s'envolèrent dans l'espace, il fit.
Et cette affaire, qui semble si ténébreuse, est tout au contraire d'une simplicité enfantine.
Météor ne put retenir un geste d'étonnement.
Ça te surprend, dit Chantecoq,
en enveloppant son élève d'un regard plein de malice.
Mais qu'est-ce que vous voulez, patron? Je n'ai ni votre perspicacité, ni votre flair.
« Mais il ne s'agit pas de flair à la circonstance, » rectifia le roi des détectives, « mais de raisonnement, de logique pure. D'ailleurs, tu es très excusable de ne pas avoir tout de suite saisi, puisque tu es dans l'ignorance absolue de l'enquête que j'ai faite cet après-midi, ainsi que des événements qui en ont été la conséquence. Et comme sous peu tu es appelé à jouer un rôle actif dans cette affaire, je vais donc te mettre au courant de ce qui s'est passé. Et je te laisserai le soin d'en tirer une conclusion qui, j'en suis persuadé, sera conforme à la mienne.
Patron, oh, inutile de vous dire que je ne vous ai peut-être jamais écouté avec une aussi vive attention.
Chantecoq révéla à son collaborateur la première visite qu'il avait faite au domicile particulier de M. et Mme Jacques Barrois, l'intuition qu'il avait eue que Marie-Louise n'était pas morte, la démarche qu'il avait tentée avec succès auprès du professeur Courtil, la véritable résurrection de Marie-Louise, et enfin, les renseignements que celle-ci lui avait donnés. Et quand il eut terminé, il dit à Météor,
« Mais maintenant, tu as la parole !»
L'élève policier paraissait plutôt embarrassé.
« Patron, fit-il, excusez-moi, mais vous allez penser, peut-être me dire une fois de plus que je ne suis qu'une gourde, mais que voulez-vous? Je suis bien obligé de vous parler franchement. En effet, si je vous déclarais que moi aussi, je trouve cette affaire toute simple, vous ne manqueriez pas de me demander pourquoi. Je serais bien embarrassé pour vous répondre. » Car, contrairement à vous, j'y vois pas clair là-dedans, mais pas du tout. Je ne comprends qu'une chose, c'est que vous avez eu la chance de rencontrer sur votre route une espèce de sorcier qui réveille les gens plongés en léthargie, un point, c'est tout. Oui, mais aussi cette vieille histoire de vieux monsieur qui a bousculé Madame Barrois sous les arcades de la rue de Rivoli. Je crois pour ma part que c'est lui qui doit être le tueur de femmes et que tous les poils qu'il posait au menton sont ce qu'on appelle des poils mobiles. Mais tout cela ne me dit pas qui il est. Si j'avais que de pareils indices, je serais bien en peine où diriger mes recherches. Météore, météore, scandait le célèbre limier. Bien que tu aies fait des progrès immenses, surtout depuis un an, et que tu sois devenu pour moi un auxiliaire que je qualifierais de bras droit, je m'aperçois que tu as encore beaucoup à apprendre. Oh, patron, c'est tout à fait mon avis. Eh bien, mon garçon, pour ce soir, nous n'irons pas plus loin. Je veux en effet te donner une leçon de police vécue, qui te profitera certainement beaucoup mieux que si en ce moment je te dévoilais mes idées. La pratique, vois-tu, il n'y a que cela de vrai. Je suis persuadé que lorsque tu m'auras vu manœuvrer, tu en seras beaucoup plus long que si je t'avais raconté d'avance mes intentions. Alors, s'exclamait le jeune secrétaire d'un air déçu, pendant que vous allez travailler, je vais être obligé de me croiser les bras. Non, je ne dis pas cela, bien au contraire. Dès demain matin, tu vas te mettre en campagne. Et je vais même dès à présent t'expliquer ce que tu vas avoir à faire. Alors là, patron, je suis content. Oh, ce n'est pas de la besogne de première classe. Tant pis. Mais elle n'en a pas moins son importance. Ce professeur Courtil, dont je t'ai parlé tout à l'heure, après avoir obtenu de brillants succès, je dirais même de trop brillants succès, a dû, à la suite d'une coalition de confrères jaloux, faire un plongeon de plusieurs années. Alors je voudrais savoir, premièrement, d'abord s'il m'a dit exactement la vérité, tant qu'au motif de sa retraite. Deuxièmement, où il est allé demeurer et ce qu'il a fait pendant ces 12 années de disparition. C'est entendu, patron, répliqua le secrétaire. Et s'armant de son calepin et d'un crayon, il ajouta « Je vous demanderai seulement de bien vouloir me donner l'adresse du personnage en question. » Chantecoq indiqua « 37 rue Bonaparte. » Je t'avertis qu'il a pour servante une certaine scolastique qui m'a l'air de lui être très dévouée et doit évidemment être au courant de tous les mystères de son existence. C'est par elle, j'en ai la conviction, que tu arriveras à te documenter. Patron, voilà un tuyau dont je vous remercie, car il simplifie singulièrement ma tâche. Maintenant, conclut Chantecoq, bien qu'il soit de bonne heure, allons-nous coucher. Et faisons une provision sérieuse de sommeil, car il n'y aurait rien d'étonnant à ce que nous eussions besoin de passer plusieurs nuits blanches. Alors, bonsoir, patron. Bonsoir, mon ami. Ils allaient se séparer. Chantecoq pour regagner sa chambre, qui était située au premier étage, et Météore pour se rendre dans la sienne, qui se trouvait au second, lorsque, presque malgré lui, Météore s'exclama « Décidément, je ne suis qu'un idiot. »« Mais pourquoi dis-tu cela ?» s'exclamait le roi des détectives avec un sourire plein d'affectueuse indulgence. « Patron, mais tout d'un coup, comme on disait dans les vieux milieux, la lumière vient de se faire en moi. »« Quelle lumière ?»« Eh bien, patron !» Oui, je reconnais, comme vous, que cette affaire est d'une clarté aveuglante. Tiens, tiens, ironisait le fin limier. Et si j'osais, poursuivit Météore, je vous dirais que si vous avez repéré le tueur de femmes, eh bien moi aussi j'en ai fait autant et c'est. Il s'arrêta, comme s'il osait prononcer tout haut le nom du personnage incriminé. Chantecoq, éclatant de rire, répliqua « C'est toi ? Oh, patron, vous plaisantez ? Bien entendu, je plaisante. Et si je plaisante ainsi,
C'est pour t'empêcher de dire une bêtise. Tu es convaincu, n'est-ce pas, que c'est le professeur Courtil, le tueur de femmes?
Dame patron, comme vous me demandez de faire une enquête sur lui, j'en conclus que tout au moins vous le soupçonnez. Et quand vous soupçonnez quelqu'un, c'est tout comme si vous l'accusiez.
Mettez hors, mon garçon, déclarait Chanteloup avec une sévérité qui n'était qu'apparente. Laisse-moi te donner un conseil. Méfie-toi de ton imagination. C'est une faculté qui peut à la fois rendre à celui qui la possède les plus immenses services, mais il n'en est pas moins vrai qu'elle peut aussi lui causer les ennuis les plus fâcheux. Rappelle-toi bien ceci. Quand on fait une enquête, on ne doit pas avoir d'avance une opinion toute faite. Il faut faire table rase de toute idée. N'envisager que la réalité, ne s'embarquer sur le bateau des déductions que lorsqu'on est bien sûr de sa base. Si tu pars demain de ce principe que le professeur Courtil est le tueur de femmes, tu feras forcément une enquête incomplète, fragile, mal étayée, parce que d'avance, tu en auras arrêté les résultats. Donc je t'interdis, tu m'entends, d'accuser cet homme, contre lequel d'ailleurs je n'ai aucune espèce de preuve, ni même de présomption, qui me permette de porter sur lui un jugement aussi décisif et aussi terrible. Et comme je suis appelé à avoir avec lui d'ici peu de très intéressants rapports, je veux non pas apprendre exactement ce qu'il a dans la peau, ça je le sais, mais je tiens essentiellement à être documenté sur lui, de telle sorte que rien de son passé ne me soit inconnu. Un point, c'est tout. Tu m'as compris ?
Oui, patron, et comme toujours, vous avez la sagesse même. Grâce à vous, me voilà maintenant bien embarqué, car si vous ne m'avez pas parlé comme vous venez de le faire, je crois que j'aurais fait des âneries. Mais là-dessus, je te souhaite une bonne nuit. Et à vous aussi, patron.
Chantecoq, au lieu de remonter dans sa chambre, ainsi qu'il en avait d'abord l'intention, demeura dans son studio. Puis, après avoir réfléchi pendant quelques instants, il grommela.
Décidément, je crois que ce petit météore ira très loin, s'il veut m'écouter.
Tandis que Chantecoq se préparait à goûter un repos bien gagné, un drame aussi étrange que foudroyant se déroulait dans un grand dancing des Champs-Élysées. Une jeune femme appartenant à la plus haute aristocratie, la baronne Vera d'Ormois, était en train d'exécuter un foxtrot avec un des danseurs attitrés de l'établissement, lorsque tout à coup elle s'écroula sur le sol. On se précipita et un médecin qui se trouvait parmi l'assistance accourut aussitôt. Mais il ne put que constater le décès de la malheureuse jeune femme. La nouvelle se répandit aussitôt dans l'établissement et il n'y eut qu'un cri. C'est encore le tueur de femmes! Mais l'épouvante allait grandir encore. En effet, tout à coup, l'électricité s'éteignait et une voix, qu'on eût dit diffusée par un haut-parleur très puissant, tant elle était formidable, lança aux quatre coins de la salle où se pressaient des couples terrifiés: Ainsi périra désormais toute femme! Il se rendra coupable d'adultère. À peine ces paroles avaient été proférées que la lumière revenait et je vis encore un surcroît d'horreur. Quatre autres femmes gisaient le long de la piscine qui occupait le centre de la salle. Étendues sur les dalles, elles étaient aussi mortellement frappées. Lorsque le lendemain, Chantecoq apprit la nouvelle de ce véritable massacre par les journaux qu'il avait publiés en dernière heure. Malgré tout son sang-froid, il eut un sursaut d'indignation, et sautant à bas de son lit, il revêtit un pyjama et se hâta de descendre dans son studio. Tout de suite, il demanda au téléphone le numéro du professeur Courtil. Celui-ci vint immédiatement à l'appareil, et fort courtoisement, il demanda
Allô, mon cher monsieur Shadcock, qu'y a-t-il pour votre service ?
Shadcock répondit.
Avez-vous lu les journaux ce matin, mon cher maître ?
Oh, je viens seulement de les parcourir.
Et vous avez vu ce qui s'était passé dans ce dancing ?
Oui, parfaitement. C'est abominable.
N'est-ce pas ? Aussi, j'allais vous demander de bien vouloir intervenir afin de ramener à la vie les nouvelles victimes de tueurs de femmes.
Ben, il m'est bien difficile d'intervenir de mon propre mouvement.
Me donnez-vous toute latitude d'agir ?
Or, parfaitement.
Et si, mon cher maître, vous étiez appelé au chevet de ces infortunés, accepteriez-vous de vous y rendre et de renouveler sur elle le miracle que vous avez accompli sur Madame Barrois ?
Mais certainement, je vous le promets, je m'engage même à ne pas sortir de chez moi. Il vous suffira de m'appeler au téléphone en m'indiquant l'adresse et je m'empresserai d'accourir.
Je vous en remercie sincèrement, mon cher maître.
Hier, monsieur Shadcock, vous m'avez entièrement convaincu et je vous en suis en gré infini, car j'estime ainsi que vous que si coupables soient ces femmes dont beaucoup doivent avoir des circonstances atténuantes, le châtiment qu'elles auraient infligé n'est pas en proportion avec la faute qu'elles ont commise.
Alors entendu, mon cher maître.
Entendu, mon cher détective.
Shadcock raccrocha l'appareil, mais ce fut pour le décrocher de nouveau et demander cette fois le numéro du baron d'Ormois. Ce fut une voix de femme qui lui répondit.
« Allô, monsieur, qui êtes-vous ? Que désirez-vous ? »
« Je suis monsieur Shadcock, détective. À qui ai-je l'honneur de parler ?» Une voix brisée de douleur répondit.
« À la marquise de Talmar, mère de la baronne d'Ormois. »
Shadcock reprenait. « Pourrais-je, madame, avoir avec vous un entretien aussi urgent que confidentiel ?»
« Mais à quel sujet, monsieur ?»«
Oh, je ne puis pas vous le dire par téléphone. Mais tout ce que je puis vous affirmer, c'est que je ne suis pas un de ces policiers privés qui recherchent une affaire. Plein de pitié, au contraire, pour votre immense douleur. J'ai peut-être entre les mains le moyen de l'apaiser, et voilà pourquoi je vous demande quelques minutes d'entretien, tout de suite, si cela est possible. » En m'excusant de vous troubler dans votre désespoir et n'agissant uniquement que dans l'intérêt de celle que vous pleurez et de tout son entourage. »
La marquise répondait.
« Monsieur Shadcock, je vous connais de nom et de réputation. Je vous attends donc avec confiance et j'ajouterai même avec espoir. »
« Dans une heure, madame, j'aurai l'honneur de me présenter à vous. »
Suivant son habitude, le détective privé se trouvait chez la baronne d'Ormois à l'heure qu'il avait annoncé. Les d'Ormois habitaient un bel hôtel, rue Bassernot, tout près des Champs-Élysées. La maison était en deuil. Il régnait une profonde atmosphère de tristesse tragique. Shadcock fut reçu aussitôt par un maître d'hôtel au visage grave, aux gestes compassés, qui l'introduisit immédiatement auprès de la marquise de Talmar, qui se trouvait dans un boudoir dont les tentures étaient fermées et qui éclairait une lampe électrique tamisée par un abat-jour de couleur sombre. Avec toutes les allures d'un parfait homme du monde, le policier s'inclina respectueusement devant la marquise, qui, accablée de douleur, était écroulée dans une bergère, et semblait ne plus avoir la force ni le courage de faire le moindre mouvement. Elle attaqua d'une voix toute tremblante de détresse.
« Monsieur, je vous attendais avec impatience. Le coup de téléphone que vous m'avez donné tout à l'heure a mis en moi la lueur d'un espoir que je ne peux pas bien définir, mais qui cependant m'a un peu réconforté dans mon immense douleur. »
« Madame, répliqua Shadcock, je ne voudrais pas vous bercer d'une illusion trop belle. J'ai toujours eu comme principe, en effet, de ne jamais m'être laissé aller à des engagements que je ne pourrais accomplir, et j'ai toujours bien aimé
tenir que promettre. Maintenant, je vais vous expliquer le but de ma démarche, qui ne m'est dicté par aucun intérêt personnel, mais uniquement par mon profond désir d'être utile non seulement à vous, madame la marquise, mais encore à tout votre entourage. Je vais maintenant vous raconter, sous le sceau du secret, les raisons qui m'ont dicté de venir vers vous, très favorablement impressionné par le langage et l'attitude du célèbre limier, dont elle connaissait d'ailleurs la valeur personnelle et la loyale probité, madame de Talma reprit.
Monsieur, vous pouvez parler en toute sécurité, ainsi que vous semblez le souhaiter, aucune indiscrétion ne sera commise par moi. Tout ce que vous allez me dire restera secret entre nous.
Très à son aise de se trouver ainsi, enfin d'une personne qui, au milieu de son immense chagrin, demeurait aussi maîtresse d'elle-même, Chantecoq reprit. Hier, madame, j'ai décidé de déclarer une guerre sans merci à cet énigmatique tueur de femmes qui a déjà causé tant de victimes, parmi lesquelles se compte hélas madame votre fille. Et voici pourquoi. Hier, j'ai acquis la certitude indiscutable qu'un mystérieux bandit avait assassiné une femme digne de tous les respects. Et voici ce qui est arrivé. À la suite d'une enquête d'ailleurs très sommaire que j'ai faite aussitôt, après avoir établi la preuve que cette jeune personne était demeurée digne tout entière de l'amour qu'elle avait inspiré à son mari, j'ai constaté qu'elle n'était pas morte ainsi que tous le croyaient, mais qu'elle était plongée dans un sommeil léthargique, ou plutôt cataleptique, qui la rendait semblable à un cadavre. Je me suis alors adressé à un grand savant, fort inconnu d'ailleurs, ainsi que trop de véritables génies. Et sur ma demande, ce savant s'est rendu auprès de cette jeune femme et a réussi à la ramener à la vie. Je ne veux pas aborder, madame, une question qui ne vous regarde pas, c'est-à-dire celle de la vie privée de votre fille, et je me complais à croire qu'elle aussi est une victime innocente.
Oh, je vous remercie, monsieur, reprenait la marquise de Talmar avec un accent de poignante émotion, et elle ajouta aussitôt, vous pensez, monsieur Shancock, que le savant dont vous venez de me parler consentirait à tenter sur ma pauvre fille l'expérience dont vous venez de me parler?
Mais j'en ai mieux que la conviction, la certitude. Je n'ai qu'à lui téléphoner. Il s'empressera d'accourir. Mais peut-être auparavant, serait-il nécessaire de prendre l'avis de monsieur le baron d'Ormois?
Non, c'est inutile, monsieur, ripostait la grande dame. Mon gendre n'est pas à Paris. J'ignore même où il se trouve. Il est parti depuis plusieurs mois, et depuis ce moment, il ne nous a pas donné signe de vie. Il va donc apprendre la mort de sa femme par les journaux. Ah, monsieur Chantecoq, tout cela est lamentable, et je suis une pauvre mère très éprouvée. Je n'avais plus au monde que cet enfant, et voilà qu'elle m'est ravie, dans les circonstances les plus douloureuses que l'on puisse imaginer.
Madame, permettez-vous de téléphoner immédiatement au professeur Courtil.
Mais je vous en prie, monsieur, fit la marquise.
Le roi des détectives s'approcha d'un appareil téléphonique qui était placé sur une petite table. Il décrocha le récepteur et il demanda le numéro du savant. Il l'obtint dans un assez bref délai et se contenta simplement de lancer « Allô, Shancock ?» « Oui, je vous demande, mon cher maître, de venir tout de suite, 37 rue de Bassano. Je vous attendrai devant la porte. »« C'est entendu, je vous remercie. Inutile de vous dire que tout restera secret. » Il raccrocha l'appareil, revint vers madame de Talamar, qui sanglotait, et lui dit avec une expression déférente et sincère, « Oh, peut-être tout n'est-il pas perdu ?» Je vous demanderai, madame, tout à l'heure, lorsque le professeur Courtil se présentera,
de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour que lui et moi restions seuls dans la chambre mortuaire.
Oh, rien de plus facile, déclarait Madame de Talamar. Ma fille est veillée par deux religieuses. Je vais les remplacer jusqu'au moment où arrivera votre ami, et je vous laisserai seule avec lui, ainsi que vous le désirez, auprès de ma pauvre enfant.
La marquise voulait se lever, mais elle paraissait si brisée que Shattuck fit le geste instinctif de lui offrir le bras. Elle s'y appuya et tous deux gagnèrent la chambre où était exposé le corps de la nouvelle victime du tueur de femmes. Et tandis que Madame de Talmar murmurait quelques paroles aux religieuses, qui apprêtaient se signer dévotement, disparurent comme deux ombres, Chantecoq regardait la jeune femme étendue parmi les fleurs. Elle aussi était belle, très belle. Quelques heures auparavant, elle devait respirer la jeunesse, la gaieté, la vie. Mais de son regard exercé si pénétrant, il eut tout de suite l'impression que son visage, beaucoup plus que celui de Marie-Louise Barrois, reflétait la mort. Et il n'eut pas ce choc mystérieux, cette espèce d'intuition surnaturelle qu'il avait éprouvée en présence de Marie-Louise. Une sorte de voix intérieure, au contraire, parut l'avertir que, cette fois, la victime n'était pas en catalepsie, mais qu'elle avait véritablement succombé. Cependant, il ne voulut rien laisser paraître de ses sentiments intimes, et se penchant vers Madame de Talmar, qui s'était écroulée sur un des prie-dieu que venaient de quitter les religieuses, il lui dit à voix basse, « Je m'en vais, madame, guetter l'arrivée du professeur. »« Et moi ?» murmura faiblement la pauvre femme. « Je vais prier Dieu pour qu'il permette le renouvellement du miracle que vous m'avez raconté tout à l'heure. » Chantecoq fit un simple signe d'acquiescement, s'inclina devant la dépouille mortelle de la baronne d'Ormois et regagna l'antichambre, où il se rencontra avec le maître d'hôtel auquel il dit « Je vais revenir tout à l'heure avec quelqu'un. D'accord avec madame la marquise, je vous demande à faire entrer tout de suite ce monsieur et moi dans la chambre où repose madame la baronne d'Ormois. » Le maître d'hôtel, un vieux parisien avisé, se dit tout de suite « Bon, c'est certainement quelqu'un de la police. » Il s'empressa de déclarer à Chantecoq « C'est entendu, monsieur, madame la marquise m'avait donné l'ordre de vous recevoir immédiatement. Je ferai donc ce que vous me demandez. » Il reconduisit le limier jusqu'à la porte d'entrée et Chantecoq se mit à faire les 100 pas sur le trottoir. Hanté par l'idée que cette fois il avait été mis en présence d'un cadavre, il songeait Voilà qui est infiniment curieux. Ah, ça, mais est-ce que le tueur de femmes aurait déjà appris que je me mêlais de cette affaire et que grâce à l'intervention du professeur Courtil, j'aurais réussi à ressusciter une de ses victimes? Mais il faudrait pour cela qu'il possédât des moyens d'information d'une rapidité déconcertante. Enfin, je me trompe peut-être. Il se peut qu'après tout, la baronne d'Ormois ne soit pas plus morte que Madame Barrois. Et il est inutile de se livrer à aucune conjecture avant que le professeur Courtil soit là et ait prononcé son verdict. Chantecoq allumait une cigarette et achevait de la consumer lorsqu'un taxi s'arrêta devant le 37 de la rue Bassano. Une portière s'ouvrit et le professeur Courtil descendit de la voiture. Chantecoq s'enfuit vers lui et lui dit tout simplement « Vous pouvez régler votre taxi, je vous ramènerai dans ma voiture. » Le savant paya le chauffeur et dut lui donner un bon pourboire, car s'il n'obtint pas de remerciements, il ne reçut aucune invective. Chantecoq, passant son bras sous celui du professeur, lui dit d'une voix brève « Oh, tout est arrangé avec la famille, qui se compose d'ailleurs d'une vieille maman
fort distingué et dont la douleur est affreuse. Vous n'avez qu'à me suivre. » Chantecoq se garda bien de communiquer à son interlocuteur ses impressions personnelles afin de ne pas l'influencer. Et après avoir sonné à la porte, tous deux pénétrèrent dans l'hôtel. Ainsi qu'ils s'y étaient engagés, le maître d'hôtel conduisit directement Chantecoq et son compagnon jusqu'à la chambre mortuaire. À leur vue, Madame de Talemar se leva et, sans avoir la force de prononcer une parole, elle répondit au salut que lui adressa le professeur Courtil par un regard tellement expressif qu'il eût attendri un cœur de pierre, et elle se retira, les épaules couchées, courbées, et essuyant avec son mouchoir ses pauvres yeux rougis de larmes. Le professeur Courtil s'approcha du corps de la baronne qu'il examina longuement. Il eut un léger haussement de tête, puis se retournant vers le roi des détectives, il lui dit « J'ai grand peur de ne pas pouvoir arriver à ranimer cette malheureuse, car j'aperçois déjà sur son visage quelques taches brunes très légères. Il est vrai, mais qui n'en sont pas moins des signes d'une décomposition prochaine. Peu importe, je m'en vais tout de même tenter l'expérience. Si je ne réussis pas, ce ne sera pas de ma faute, et cette fois, le tueur de femme aura tué vraiment. » Le savant se livra sur Madame Vera d'Ormois à la même opération que sur Marie-Louise. Quand elle fut terminée, après avoir replacé ses instruments dans sa trousse, le savant dit à Chantecoq « Ben, nous n'avons plus qu'à attendre. » Au bout d'un quart d'heure, aucune manifestation d'existence ne s'était produite. « Oh, décidément, opina le professeur, ma première impression était la bonne. Oh, il n'y a rien à faire. Ou nous sommes arrivés trop tard, ou l'assassin s'est servi d'un toxique qui cette fois foudroie d'un seul coup. » « Attendons encore quelques instants, » demandait Chantecoq. « Bon, si vous voulez. » 5 minutes s'écoulèrent, au bout desquelles la porte de la chambre se rouvrit, laissant apparaître la silhouette de la marquise. Son regard, qui n'était plus obscurci par des larmes, et qui brillait au contraire d'un fiévreux éclat, se dirigea interrogateur et angoissé vers les deux hommes, qui continuait à observer en silence la jeune femme étendue parmi les fleurs. Elle comprit tout de suite que la tentative n'avait pas réussi, et d'une voix brisée, elle fit « Elle est morte, n'est-ce pas ?» Le professeur Courtil répondit simplement « Hélas, madame !» Chantecoq, l'air peiné, reprit « Pardonnez-moi, madame, si j'ai provoqué en vous une vaine espérance. Oh, je ne vous en veux pas, monsieur. Je ne veux, au contraire, me souvenir que de l'intention généreuse qui vous a guidé. » Deux ombres silencieuses revenaient dans la chambre mortuaire. C'étaient les religieuses qui, de nouveau, s'agenouillaient sur le prie-Dieu. Madame de Talemar, à bout de force, se laissa tomber sur un fauteuil, et la veillée funèbre recommença.